Chapitre 24. Simple comme un coup de téléphone. Ce nuage n'est pas tombé du ciel, ma belle, et ce n'était pas un accident. Jacques n'avait rien ajouté après cette révélation. Il était sorti aussitôt de la salle du petit déjeuner et avait simplement ordonné d'un geste de la main à Dim de le suivre et de lui apporter une bouteille de vodka ou de cognac millésimé. Jacques n'était pas réapparu pendant 2 jours et les bouteilles vides s'étaient accumulées devant la porte de sa suite Windsor au premier étage où même Dim, Sam et Vendredi avaient interdiction d'entrer. Vraisemblablement, pensait Zizo, la mise en place du code de la Verte Croix avait touché Jacques, même s'il refusait de l'avouer. Lorsqu'il avait vendu ses prémats à Augénor et Mordelia, aucun de ses droits et devoirs ne figurait dans le contrat. Jacques se retrouvait désormais coincé dans sa cage dorée. Seule une révolte générale des prémats aurait pu permettre d'améliorer leur sort, et seul Yak, leur père, aurait été capable de mener cette révolte. Autant dire que les prémats n'en avaient pas fini avec leur esclavage, d'autant plus que Mordelia maîtrisait à présent aussi bien que Jacques leur langage. Lorsque l'adulte était enfin réapparu, personne n'avait osé l'interroger, pas même Sabine. Il se souvenait de ses menaces. Méfiez-vous, je n'ai qu'un mot à dire et la garde civile débarquera ici. Jacques était imprévisible. Il pouvait se comporter comme le plus charmant des hôtes le matin et le plus cruel des tortionnaires avec ses privilégiés et surtout Crobleu dans l'heure suivante. Bien entendu, les fugitifs envisageaient de plus en plus souvent de quitter le palace, mais pour aller où? Leur capture valait désormais 65 lunes. Et l'hiver s'était brusquement abattu sur Paris. Un froid sec, sans neige ni vent. Rien qu'un air glacial, dont la morsure invisible vous saisissait dès que vous mettiez un doigt ou un nez dehors. Seul Agnel s'y risquait, sur le toit du palace, pour ramasser les cadavres de moineaux gelés pendant la nuit. Comme chaque matin, Sam alla ouvrir la porte pour récupérer les marchandises de la journée. Il s'était coiffé d'un épais manteau en fourrure de raton laveur et d'un curieux bonnet en poil de castor. Le thermomètre affichait -10 degrés. Pourtant, quand il avança sur les marches de l'entrée du palace, pour la première fois sans doute de sa vie, il laissa la porte ouverte derrière lui, stupéfait par ce qu'il voyait. Gilles et Pomme, les deux prémats avec qui il plaisantait chaque matin lorsqu'ils apportaient l'habituelle feuille de chou, une caisse de légumes, du pain, des œufs et des fruits frais, était presque nu. Malgré les températures polaires, le garçon, Gilles, n'était vêtu que d'un pagne qui couvrait uniquement son ventre et ses cuisses, et la fille, Pomme, grelottait dans une fine écharpe qui couvrait à peine sa poitrine. À leur chair piquetée, leurs lèvres bleues, leurs gestes lents, on devinait que le froid leur glaçait le sang à en couper leur circulation, à en comprimer leur cœur. Il ne pourrait survivre ainsi plus de quelques minutes dehors. Même s'il était le plus débrouillard des 7 privilégiés, Sam n'était pas bien intelligent. Son cerveau, pourtant, par une de ces gymnastiques cérébrales dont il était peu coutumier, parvint à associer 2 éléments différents. Le code de la Verte Croix, dont cette fille aux cheveux frisés, Alix, avait parlé, et les punitions infligées aux prémats qui désobéissaient. Les dos de Gilles et Pomme étaient couverts de balafres rouges. 10 plaies longues et fines, encore ensanglantées. Ils avaient reçu 10 coups de fouet. Gilles et Pomme avaient refusé de travailler, ou avaient dû y mettre de la mauvaise volonté, et ils avaient été punis. Quelqu'un avait dû leur ordonner de ne pas s'habiller pour que tout le monde puisse remarquer qu'ils avaient désobéi. Sam trembla. Pas autant que Gilles et Pomme, mais il trembla quand même. Lui avait la chance d'avoir un bon maître. Un maître qui ne le fouettait pas, qui ne traçait pas sur son cou une croix verte, qui le protégeait de cette bête féroce de Crobleu. Sam n'avait plus rien à voir avec ses prémats du dehors qui le regardaient avec des yeux suppliants, leur caisse de légumes dans les bras. Tant pis pour eux. Ils pouvaient bien mourir de froid sur les marches, d'autres les remplaceraient le lendemain. Sam allait refermer prestement la porte du palace quand une voix gronda derrière lui.
« Laisse-la ouverte !»
C'était la voix de son maître. Il tenait 2 manteaux de fourrure, les plus chauds qu'on puisse trouver dans le palace, ainsi que 2 bonnets de laine fourrés, des pulls et des écharpes. il sortit les déposer lui-même dans les bras de Gilles et Pomme, et sans un mot, se pencha pour récupérer la caisse de carottes et de poireaux avant de rentrer dans le palace, au chaud. Alix et Zizo, Sabi et Akan, Agnel et Mano s'étaient arrêtés de déjeuner. Jamais depuis qu'ils étaient venus habiter au palace, Jacques n'avait eu un seul geste de tendresse envers un prémat. Il s'assit au bout de la table et se versa une grande tasse de café. « J'ai beaucoup réfléchi, » fit-il. « J'ai des choses à vous dire. » Zizo l'observa. Jacques ne sentait pas l'alcool ce matin. Il était rasé de près, et ses habits paraissaient choisis parmi ceux que Vendredi avait repassés pendant la nuit. « J'ai l'impression que ce nouveau monde est en train de devenir encore pire que celui d'avant. Et pourtant, vos parents avaient placé la barre sacrément haut. » Il vida son mug et se resservit un café sans même attendre que Mardi se précipite. « Alors, vous voulez tout savoir, c'est bien ça? Le passage du nuage? Le cataclysme? L'hécatombe? Vous allez être déçus, croyez-moi. Je n'ai rien à vous dire sur ce qui s'est passé avant. Comme tous les autres milliards d'êtres humains qui vivaient alors sur cette terre, je n'étais au courant de rien. Et encore moins là-haut, dans ma station, au milieu des étoiles. Tout ce que je sais, je l'ai appris après le passage du nuage. C'est vous dire si je ne suis pas au courant de grand-chose. Vous comprenez, à l'époque, on ne se retrouvait pas spécialement à la terrasse des bars pour discuter entre survivants et parler du bon vieux temps. Le nombre d'adultes encore en vie diminuait aussi vite que les abeilles avec les premières gelées. Il n'a pas fallu plus de 10 mois pour que Sarah, la dernière sage-femme, une femme admirable, décède et que je me retrouve seul avec mes primats, 300 marmots sur les bras. Voilà. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Un pauvre type comme moi devenu la super nounou du nouveau monde. Il s'arrêta et se versa une troisième tasse de café comme s'il hésitait à continuer. « Mais !» glissa Sabi. « L'histoire ne s'arrête pas là !»« Non, hélas. Vous ne devinerez jamais comment j'ai su que je n'étais pas encore le seul adulte survivant. »«
Un pigeon voyageur ?»
tenta Agnel. Jacques sourit. Il avait toujours eu une affection particulière pour l'ado oiseau et plus encore pour la musique de Mano, son amoureux guitariste. Non. Ça s'est passé de façon beaucoup plus simple. Un coup de téléphone. Nous étions 4 ans après le passage du nuage. Certaines antennes de télécommunications fonctionnaient encore. Tout a sauté ensuite, petit à petit. Bien entendu, on n'a plus jamais envoyé de nouveaux satellites dans le ciel, je suis bien placé pour le savoir, ni même entretenu les lignes téléphoniques. Un beau jour, donc, imaginez la scène, le téléphone de la clinique a sonné. C'était un homme au bout du fil, on disait comme ça avant, au bout du fil, même s'il n'y avait plus de fil depuis longtemps. L'homme s'appelait Pierre Sol. Son boulot de nounou à lui, c'était de s'occuper des gosses de Paris, ceux qui traînaient dans la rue. Il avait appris par les derniers infirmiers vivants de l'hôpital Bichat que des centaines de mères avaient accouché de bébés prématurés à la clinique des Immortels, près de l'estuaire, et qu'il existait peut-être un type là-bas, moi, qui n'avait pas respiré le nuage. Ce type, Pierre Sol, pleurait comme un gosse. Il disait qu'il allait mourir, qu'il n'en avait plus que pour quelques semaines, qu'il ne pourrait pas sauver tous les enfants, qu'il enterrait ceux qui ne survivaient pas à l'hiver dans le cimetière de Picpus. Il me jurait qu'on était des justes. C'est comme cela qu'il m'appelait. Injuste. D'après lui, il en restait quelques-uns autour de Paris qui s'occupaient de petits groupes d'enfants comme ils pouvaient. Mais tous allaient disparaître. Dans 1 an au plus, je serai le dernier. Et il avait raison. Il avait raison, ce con. Jacques vida sa 3e tasse de café. Zizo le fixa. Il était déçu. Pour l'instant, Jacques ne leur avait rien appris qu'ils ne sachent déjà. « Oui, » répéta Zizo avec une pointe d'agressivité. « Pierre Sol avait raison. C'était un juste, pas un con. Sans lui, ni Agnel, ni Akan, ni moi n'aurions survécu. » Jacques éclata de rire, crachant des giclées de café sur son impeccable chemise ivoire. Il essuya sa barbe d'un revers de main énervé. Oh si, vous auriez survécu. Oh si. Et avant de raccrocher, Pierre Sol m'a tout raconté. Il a soulagé sa conscience, comme on dit. Il m'a parlé de ce labo, Utopie, celui où il travaillait avec sa femme, Marie-Lune. Une autre juste aussi, celle-là, c'est ainsi que vous la voyez, n'est-ce pas ? Il fixa tour à tour Sabi et Alix. Celle sans qui vous ne seriez pas des jeunes filles aussi jolies, aussi cultivées, aussi parfaites. Je sais que vous cherchez ce fameux labo, mais ne me demandez pas où il se trouve, je n'en ai aucune idée. Pierre-Sol ne me l'a pas dit, ni pourquoi certains gosses avaient le droit de se la couler douce au Louvre et d'autres non. Je ne sais pas, il m'a seulement dit qu'ils étaient fâchés à mort, Marie-Lune et lui. Il osa demander Zizo. Pierre-Sol, vous a parlé de sa fille ? Jacques parut surpris de la question. Oui, ça fait partie des choses qu'il m'a avouées. Marie-Lune était enceinte, de jumeaux, d'après ce que Pierre-Sol m'a dit. Un garçon et une fille. Des gosses qui ont survécu, forcément. À croire que ces deux-là, je parle de leurs parents, hein, pas des gosses, avaient su ce qui allait arriver.
Et comment aurait-il pu savoir ? S'agaça Alix. Personne ne pouvait prévoir le passage du nuage. Sinon les gens se seraient protégés.
Mardi était revenu avec une nouvelle cafetière fumante. Jacques vida une quatrième tasse et regarda un à un les six ados. Ses yeux étaient devenus inexpressifs, comme si derrière ses iris défilaient les milliards d'humains morts. Pierre-Sol et Marie-Lune étaient des scientifiques reconnus, c'est du moins ce qu'il a prétendu. Leur labo était l'un des plus réputés au monde, spécialisé dans la microphysique, l'étude des particules et des risques chimiques, ce genre de trucs. Ils y développaient des recherches inédites, s'engageaient dans des voies jusqu'alors inexplorées. Des aventuriers qui se livraient à des expériences forcément dangereuses. Et en ont tenté une de trop, c'est ce que Pierre-Sol m'a avoué. Quelque chose a dérapé, qui les a dépassés. Vous vouliez la vérité ? Eh bien la voici. Le nuage n'a pas été apporté par une poussière d'étoiles toxiques ou une éruption gazeuse du magma au centre de la Terre. Le nuage est sorti de ce labo. Une simple étourderie. Même ceux qui bossaient dans ce labo ont été contaminés malgré leur masque, sans doute à cause de la respiration cutanée. Ça aura au moins permis à Pierre-Sol et Marie-Lune de survivre plus longtemps que les autres. Ils avaient aussi fabriqué une sorte d'antidote qui ralentissait l'effet du nuage, d'après ce qu'il m'a expliqué, et Jacques marqua un bref arrêt, comme s'il hésitait à tout raconter et qu'une part du passé ne pouvait pas être révélée. Enfin, bref, ils cherchaient à gagner du temps pour construire leur petite légende auprès des enfants survivants. Des justes, le papa et la maman de tous les enfants. Vous les avez pris pour des saints, des anges depuis que vous êtes nés, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont liquidé l'humanité. C'est plutôt amusant, non ? Les six ados s'étaient figés. Toutes leurs croyances, toutes leurs certitudes explosaient. L'empire de la mort, murmura Alix. Jacques porta la tasse jusqu'à ses lèvres. Elle était vide. Il la jeta à l'autre bout de la pièce où elle rebondit sur les tentures de velours avant d'échouer sans se briser sur les tapis épais. J'avais une petite copine à l'époque. La première à accepter que je passe ma vie en l'air. La seule qui aurait pu me faire renoncer à monter dans une fusée. Elle s'appelait Julie. J'envisageais de m'installer avec elle. Elle avait deux gosses, Hugo et Manon, qui me considéraient presque comme leur papa. J'avais des amis aussi, beaucoup. Des potes de toujours et des collègues plutôt sympas. Mes parents étaient déjà âgés, mais toujours là, tous les deux. Jacques déglutit longuement. Ils m'ont été enlevés, tous balayés en moins d'un mois. Je n'avais même plus assez de larmes pour pleurer. Alors vous croyez qu'une bande de nouveau-nés débiles pouvait les remplacer ? Qu'il n'y avait pas de quoi devenir fou ? De quoi tout laisser tomber ? Il marcha dans la pièce, tourna en rond, finit par ramasser la tasse avant de fixer à nouveau les six ados. Je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai lutté, mais je me suis pourtant mis à haïr ces prémas. À haïr tous les gosses qui vivaient encore sur la terre. À vous haïr ? Les regards des ados étaient trempés. Seul Hakan parvenait encore à retenir ses larmes. Peut-être Jacques fut-il ému. Il s'approcha comme s'il hésitait à tous les prendre dans ses bras et accrocha un sourire mélancolique sur son visage.
Enfin, tous les six, je vous déteste quand même un peu moins que les autres. Et maintenant que je vous ai tout déballé, je n'ai plus aucune raison de vous mettre dehors. Je sais que vous avez envie de sortir, d'être utile, d'aider les Prémas frappés de cette odieuse verte croix, de retrouver ce labo, mais soyez prudents. Attendez encore un peu. Vous avez le temps, tout votre temps, toute votre vie. Le nouveau monde peut bien patienter jusqu'à Noël, avant que vous le sauviez.
Jacques les laissa. Mardi courait après lui, sa cafetière à la main, mais il le chassa d'un moulinet de bras et fit au contraire signe à Dim, son sommelier préféré, de le précéder. Zizou l'observa s'accrocher à la rambarde de fer forgé de l'escalier. Un étrange sentiment l'envahissait. Aussi terribles que soient les révélations que Jacques venait de leur asséner, il était persuadé que l'unique adulte survivant ne leur avait pas tout dit, et que la vérité était pire encore, l'empire de la mort.